Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Témoins. Et pour cette émission, je reçois aujourd'hui Madame Geneviève Barnagot, qui est présidente de JALMAV, ce qui veut dire jusqu'à la mort accompagner la vie. Comment vous vous situez, vous, par rapport à cette démarche d'accompagnement? Alors, j'aimerais que vous nous présentiez, d'une part, cette démarche d'accompagnement, et puis je vais vous demander quand même, comment vous en êtes venue à vous intéresser à cette question? Puisque en préparant l'émission, vous m'avez dit, j'étais professeure d'éducation physique. Comment on passe du professorat d'éducation physique à cette expérience d'accompagnement? Parce que là, vous dites clairement, jusqu'à la mort. Donc là, c'est clairement dit, pas de tabou.
Tout à fait.
C'est clair.
Personnellement, mon choix est venu d'une réflexion qui pour moi était évidente, que tout le monde doit mourir, que personne ne sait quand il va mourir, et que tourner le dos à cette réalité-là, c'est se mettre en difficulté. Donc, j'ai réfléchi avec des amis sur cette question-là, et à un moment donné, cette réflexion ne pouvait pas aller plus loin tant qu'il n'y avait pas la confrontation avec des personnes proches de cette réalité-là. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que grâce à la formation de JALMAV, on pouvait bien comprendre en quoi cette question est importante et comment, en allant au chevet des personnes malades, on pouvait les aider à se sentir encore, jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, des êtres humains à part entière, dignes. Hein. Il y a deux dignités. La dignité ontologique, c'est celle qui est décrite dans la Déclaration des droits de l'homme, où toute personne humaine est digne jusqu'à la fin de ses jours, quel que soit son état de santé, quelle que soit sa vulnérabilité. Et puis, il y a la dignité posturale. La dignité posturale, c'est ce que décrit le sociologue Eric Fiat. C'est le regard, c'est ce que l'on veut donner à voir à l'autre de sa personnalité. Et dans ce regard, et dans cette dignité posturale, ce qui est important, c'est que c'est ça qui est mis en avant en fin de vie. C'est-à-dire que la personne ne se sent plus reconnue, elle se sent diminuée, elle ne se reconnaît plus comme elle était avant, donc elle se sent indigne. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là, sur ce terrain-là, que le bénévole accompagnant a sa place. Parce que dès l'instant où on a un regard sur la personne, même devenue vulnérable par l'âge ou par la maladie, eh bien, si on a ce regard, si on a cette écoute, si on les considère tels qu'ils sont, tels que les personnes qu'ils ont toujours été, à ce moment-là, ils peuvent retrouver de l'estime de soi et un sens à leur vie.
Est-ce que vous trouvez qu'effectivement, le fait d'être malade en fin de vie, ça amène les gens à dire « bon ben, qu'est-ce que je fais là ?» et j'ai plus ma place. Et
c'est souvent soit ce qui est ressenti, hein, soit ce qui est renvoyé à la personne. Je ne dis pas tout le temps, il y a des exceptions, voilà. Mais ce sentiment de ne plus servir à rien, ce sentiment de ne plus être...
Il vient beaucoup plus tôt, il vient dès la retraite.
Bien sûr,
quand vous êtes en retraite,
ce sentiment, mais peut-être qu'il faut réfléchir à ça bien plus tôt. C'est pour ça que j'ai commencé à y réfléchir bien avant d'être très âgée. Hein. Donc voilà, c'est ces dimensions-là qui m'ont amenée à faire ce choix du bénévolat d'accompagnement auprès des personnes en fin de vie. Et il est important de souligner que nous sommes des témoins. Vous me demandiez quelle place on avait. Nous sommes des témoins de la société civile. On ne représente pas une confession, quelle qu'elle soit. On est des témoins de la société civile. Et la relation qui s'établit avec la personne malade, elle se fait dans la réciprocité et dans l'enrichissement mutuel. Ce que le lien qui se crée par la rencontre nous renvoie, c'est que la personne apprécie cette rencontre, hein, et ça permet d'avoir un vrai échange avec un mutuel partage.
Est-ce que, justement, par rapport aux familles, est-ce que, par exemple, le fait d'être ni dans les soignants, médecins et autres, ni dans la famille, ça vous donne plus de facilité pour écouter les choses qui sont difficiles à dire à un médecin et qui sont difficiles à dire à sa famille, mais qui doivent être dites pour pouvoir partir tranquillement?
Ça peut. Hein, ça peut. Et en tout cas, si cette porte ouverte, c'est cette porte que l'on ouvre, hein, pour les patients. Hein, c'est vraiment... c'est le fait de venir, entre guillemets, pour rien. Hein. On ne vient pas pour faire des soins, on ne vient pas pour être avec son proche, on vient pour rien. On est l'inconnu.
On vient même pas non plus pour...
On est l'improviste.
Pour vendre
on est
sa
l'inattendu.
Religion ou son Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent non, écoutez,
tout
moi
je suis
désespérée, donc de toute façon je veux voir personne.
Tout à fait, et on respecte ce désir. On respecte ce désir tout en laissant une porte ouverte, en disant, bien écoutez, je respecte, donc je ne vais pas rester. Par contre, ce que je vous propose, c'est de venir vous dire un petit bonjour la semaine prochaine. Laissant cette porte ouverte, ça permet à la personne, pendant une semaine, peut-être d'avoir mûri quelque chose, et parfois, la semaine suivante, la personne nous invite à nous asseoir, ou pas, hein, les deux sont possibles. Hein, ce qui est important, c'est vraiment que la liberté de la personne soit entendue, et je pense que ça fait partie de l'humain. Je veux dire, c'est une personne qui n'a plus trop le choix de dire non aux soignants, qui ne peut pas trop dire non à la présence
de la famille.
Par contre, à nous, elle peut dire non. Et quand on peut encore dire non, c'est qu'on a encore une liberté, donc une humanité.
Donc là, vous disiez, bon, ben, j'ai fait ce choix. J'imagine que on est confronté à la mort des personnes.
Bien sûr.
De ce fait.
Bien sûr.
J'imagine que cela vous atteint personnellement, non? Parce que là, il y a quand même quelque chose. On ne peut pas ne pas penser à sa propre mort lorsqu'on est dans cette situation.
C'est tout un travail qui est fait et qui n'est jamais fini, mais qui est largement ébauché au moment de la formation des bénévoles accompagnant les personnes en fin de vie.
Parce que tout à l'heure, vous évoquiez ça, vous disiez, je me suis posé la question, enfin, tout le monde doit mourir, moi aussi, et je me suis posé cette question.
Donc, dans cette formation, que l'on veut longue, c'est-à-dire que ce n'est pas une formation de 2 ou 3 week-ends, c'est une formation qui nécessite un cheminement personnel. Il faut que les personnes qui souhaitent faire ce type de bénévolat analysent bien et réfléchissent bien pour elles-mêmes, avec un groupe, ce qu'elles cherchent à travers ça. Est-ce qu'elle est prête à cela? Est-ce qu'elle cherche à réparer des choses? Ou tout simplement... Voilà, donc il faut que la personne ait vraiment réfléchi à cette question-là pour qu'elle puisse se mettre en position d'écoutant, sans avoir besoin de donner de solutions, sans avoir besoin de donner de conseils à une personne, sans avoir besoin d'intervenir dans l'intimité.
Son parcours de soins,
voilà.
Dans son parcours
la
de
personne
vie.
Reste maître de ce qu'elle a besoin de dire à ce moment-là. Donc, il faut vraiment qu'on ait une position d'écoute très particulière. Hein? Donc, la formation, elle est très, très importante. Et nous sommes très, très vigilants pour qu'elle ne soit pas raccourcie pour des raisons X ou Y. Quelqu'un qui souhaite une formation courte, c'est souvent le signe de quelqu'un qui n'est pas tout à fait fait pour ce bénévolat.
Et dans ce bénévolat et dans ce soin des personnes, j'imagine que de temps en temps, vous devez avoir besoin de débriefer, non ?
Oui, alors c'est prévu dans notre cheminement. On est bénévole accompagnant à Jalmalve au nom de l'association, pas en son nom propre. Hein. Donc c'est bien sur un plan de représentation civile et laïque. Et on a des engagements vis-à-vis de l'association, c'est-à-dire qu'une fois par mois, chaque bénévole accompagnant doit participer à un groupe de parole où, précisément, on fait ce débriefing. C'est un débriefing déjà pour soi, hein, surveiller sur quel point on a pu s'attacher, s'accrocher. C'est un débriefing pour partager des expériences. Voilà, j'ai eu telle réaction, mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités ? Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres réactions face à cette situation-là ? Donc, c'est un vrai travail de retour sur expérience qui est absolument indispensable et extrêmement enrichissant en même temps. Hein. On évolue continuellement quand on est bénévole accompagnant. Le service où je vais en tant que bénévole accompagnant, il y a quelques années, il y a une personne malade qui était en toute fin de vie et qui avait un désir très très fort. C'est il voulait aller à Lourdes. Et toute l'équipe, ça a été vraiment magnifique, toute l'équipe s'est mise en quatre pour faire en sorte que ce projet soit possible. En effet, ils ont remué ciel et terre et le voyage a pu se faire. Et le monsieur, c'était un monsieur, bon, et quand il est revenu, eh bien, il est mort. Mais il avait fait...
Il a pu aller jusqu'au bout de son projet.
Il a pu aller jusqu'au bout et je pense que pour l'équipe de s'être mobilisée comme ça sur un projet qui n'avait rien de médical... Hein, ça a été vraiment une expérience très riche. Et je témoigne que les services où j'ai accompagné, c'est fréquent qu'on essaye de
d'entendre aussi les besoins
d'entendre
et ce que les
ces
gens
besoins-là
demandent.
Et vraiment de mettre en œuvre les choses. Parce qu'on pourrait entendre le besoin et dire bon, bah, votre famille n'a qu'à organiser. Non, non, ça fait partie du soin. Je pense que la notion de laïcité reste quand même le respect des convictions et de toutes
Exactement.
Les convictions. Dès l'instant où j'interviens en tant que personne citoyenne vis-à-vis d'un citoyen, je respecte ses convictions. En aucun cas, je ne parlerai ni n'imposerai les miennes, mais je pourrais en effet dire bah, « Vous me parlez de ça, mais je l'entends bien. Est-ce que vous souhaiteriez ?» voir l'aumônier, le pasteur, l'imam, je ne sais pas, le responsable de telle ou telle
le
confession.
Le temps, c'est cool. Mais merci d'être venu à Radio Grand Ciel et d'avoir témoigné de ces temps qui font partie de la vie et auxquels chacun est confronté.
Merci de ce partage.